Bienvenue à la discussion. On parle aujourd'hui d'un marché en pleine ébullition, celui des logiciels pour l'architecture, l'ingénierie et la construction. Les chiffres sont assez vertigineux, on parle de plus de 20 milliards de dollars d'ici 2032. Et le mot qu'on entend partout pour expliquer ça, c'est bien sûr l'intelligence artificielle.
Oui, tout le monde en parle. Et c'est justement là que ça devient intéressant. Parce qu'au fond, où est-ce que l'IA apporte vraiment sa valeur dans ce secteur? Est-ce qu'on parle juste d'améliorer un petit peu les grosses plateformes de gestion que tout le monde connaît déjà? Ou est-ce que la vraie transformation, elle est plus discrète, plus en profondeur et qu'elle se passe vraiment sur le terrain avec des outils très spécialisés?
C'est exactement la question. De mon côté, je suis vraiment convaincu que l'impact le plus large, le plus durable, viendra de l'intégration de l'IA au cœur même des grandes plateformes complètes, celles qui en fait structurent déjà le marché.
Et moi, je pense au contraire que la véritable révolution, elle est ailleurs. Elle vient de ces plateformes d'IA qu'on appelle opérationnelles. Celles qui ne font pas que gérer, mais qui changent la manière dont les décisions sont prises tous les jours en première ligne.
Pour moi, c'est vraiment une question de structure et puis d'échelle. L'avenir, c'est Autodesk Construction Cloud, c'est Procore. Ces plateformes, vous savez, elles ne sont pas devenues des standards par hasard. Elles sont la colonne vertébrale numérique de tout le cycle de vie d'un projet. De la conception, avec la modélisation des données du bâtiment, le fameux BIM, jusqu'à la gestion financière, la livraison. Le rapport de marché qu'on a sous les yeux est d'ailleurs sans appel. On passe de 8,5 milliards en 2022 à presque 12,5 milliards en 2027. C'est une croissance qui est portée par ces géants. Ils ont déjà les clients, les données, toute l'infrastructure. Quand ils intègrent une brique d'IA, eh bien, ils la déploient instantanément à des milliers d'entreprises. Les outils spécialisés, aussi brillants soient-ils, finiront comme des fonctionnalités absorbées par ces écosystèmes. C'est un peu le sens de l'histoire, quoi.
Ah, je vois les choses de manière que c'est différente. Pour moi, la vraie innovation, ce n'est pas de rajouter une petite couche d'IA sur un logiciel de gestion qui existe déjà. C'est de partir d'un problème métier, un problème très concret, et de le résoudre avec une approche radicalement nouvelle. Prenez l'exemple de ce que fait l'entreprise Jacobs avec la plateforme Palantir Foundry dans le traitement des eaux usées. On n'est pas dans la gestion de projet là, on est dans l'optimisation en temps réel de processus industriels très complexes. Ou alors un outil plus ciblé comme InspectMind qui utilise l'IA pour l'assurance qualité des documents de construction. Il ne cherche pas tout faire, non, il fait une seule chose, mais il l'a fait de manière transformatrice. Le but, ce n'est pas d'avoir un plus joli tableau de bord pour le chef de projet. Le but, c'est de donner une recommandation précise à l'opérateur sur le terrain pour qu'il agisse. Et surtout, ça génère un retour sur investissement direct, mesurable, qu'on peut calculer à la fin du mois. C'est ça la grande différence.
Vous parlez de retour sur investissement, mais justement, on ne le mesure pas de la même façon. La valeur des grandes plateformes est stratégique, elle est systémique. Quand une entreprise adopte le BIM via Autodesk, elle ne cherche pas à économiser 10% sur le ciment d'un chantier. Elle cherche à standardiser ses processus, à réduire les erreurs de conception qui coûtent des millions, à fluidifier la collaboration entre des dizaines d'équipes. C'est un gain à long terme qui infuse toute l'organisation. C'est peut-être moins spectaculaire qu'un chiffre unique, c'est vrai, mais c'est infiniment plus structurant pour l'entreprise. C'est la différence entre optimiser une tâche et transformer une industrie.
La valeur dont je parle, elle n'est pas théorique, elle est comptable. L'étude de cas de Jacobs est fascinante pour ça. À l'usine d'Aguanoeva, en Arizona, ils ont réduit de 49% leur coût de produits chimiques de désinfection. Ce n'est pas une meilleure visibilité. C'est une ligne de coût qui est divisée par deux. À Wilmington, c'est 250 000 dollars d'économie par an sur un seul produit, l'hypochlorite de sodium. Comment est-ce que vous arrivez à un chiffre aussi précis avec l'argument de l'efficacité globale?
C'est un excellent résultat pour une usine, je ne le nie absolument pas. Mais la question c'est, est-ce que ce modèle est réplicable à l'échelle d'un portefeuille de, disons, 50 projets de construction totalement différents? La force d'une plateforme comme Procore, c'est qu'elle apporte de la cohérence à des projets qui sont par nature uniques et souvent chaotiques. Le ROI stratégique, il vient de la réduction du risque global, de la capacité à finir les projets à temps et dans le budget, ce qui est le nerf de la guerre dans la construction. Les économies que vous citez sont impressionnantes, mais elles me semblent liées à un environnement très contrôlé, un processus industriel répétitif. Est-ce que ça s'applique vraiment à la construction d'un gratte-ciel ou d'un pont?
Mais c'est justement là que la logique est puissante. Elle s'applique partout où un opérateur doit prendre une décision basée sur des données complexes. Et ce retour sur investissement, il vient d'un changement de paradigme fondamental. On n'outille pas la même personne. Qui est l'utilisateur final dans votre vision?
Clairement, l'utilisateur est au centre de la stratégie. Ce sont les gestionnaires de projets, les architectes, les ingénieurs. Les plateformes comme Autodesk Construction Cloud, c'est leur poste de pilotage. C'est là que l'information de toutes les équipes converge, du bureau au chantier. C'est depuis ce cockpit qu'on prend les décisions qui ont un impact sur le budget, sur le planning, la sécurité. C'est le centre névralgique qui permet de garder le contrôle sur des projets qui, sinon, partiraient dans tous les sens.
C'est un argument intéressant, mais je le formulerai différemment. Le cockpit, c'est bien, mais si le pilote n'a pas d'informations fiables sur l'état des moteurs en temps réel, il voile à l'aveugle. Les plateformes comme Foundry, dans l'exemple de Jacobs, ne sont pas conçues pour le cockpit, mais pour le mécanicien qui a les mains sur le moteur. Le système ne se contente pas de remonter des alertes sur un tableau de bord, il envoie des notifications push sur le téléphone de l'opérateur, avec une instruction très claire, réduit le dosage de ce produit de 5% maintenant. L'analyse de données devient une aide à l'action, pas un rapport de plus à lire. C'est toute la différence que souligne l'analyse comparative entre Foundry, Microsoft Fabric et Databricks. Les deux derniers sont d'excellents outils de business intelligence, de science des données pour analyser le passé. Foundry est conçu pour agir sur le présent. On passe de l'analyse rétrospective à l'action prescriptive.
Oui, mais cet opérateur sur le terrain, celui que vous voulez outiller, il se fait de plus en plus rare. On ne peut pas ignorer le contexte. Le secteur est confronté à une pénurie de main-d'œuvre catastrophique. Le rapport mentionne un besoin de 650 000 travailleurs supplémentaires juste aux États-Unis. Comment votre approche très pointue répond-elle à ce problème de masse ? Pour moi, les grandes plateformes, elles, ont une réponse systémique. En standardisant les processus, les formulaires, les flux de travail, elles créent un cadre. Et ce cadre permet d'intégrer plus facilement de nouveaux employés, même moins expérimentés, et d'assurer une continuité quand il y a un fort roulement de personnel. C'est une réponse structurelle à une crise structurelle.
Je ne suis pas convaincue par ce raisonnement. Vous parlez de standardiser la médiocrité, faute de mieux, moi je parle de démultiplier l'excellence. Les solutions d'IA opérationnelles s'attaquent aux problèmes de manière bien plus directe. L'étude de Jacobs, encore une fois, est très clair là-dessus. Il parle de mettre en place des chatbots de maintenance d'équipement et des outils de formation assistés par l'IA. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Ça veut dire que l'expertise de l'opérateur le plus expérimenté, celui qui part à la retraite dans 2 ans, est capturée. Son savoir-faire, ses intuitions, ses réflexes sont modélisés par le système. Et cette expertise est ensuite redistribuée à toute l'équipe, y compris aux jeunes qui viennent d'arriver, sous la forme de diagnostics en temps réel ou de guides interactifs. On ne se contente pas de lui donner un formulaire standard à remplir, on lui donne un mentor virtuel dans la poche. Ça, c'est une vraie réponse à la pénurie de compétences.
D'accord, mais en faisant ça, est-ce qu'on ne crée pas une dépendance totale à l'outil robot ? Si le système tombe en panne, si l'IA se trompe, est-ce que l'opérateur sait encore réfléchir par lui-même ? La standardisation d'un processus, même simple, garantit une base de travail solide et résiliente. Votre approche semble créer des super opérateurs, assistés, mais qui sont peut-être perdus sans leur assistant. Ça soulève une vraie question sur la fragilité du système.
C'est une question légitime, mais je pense qu'elle se pose pour n'importe quelle technologie. Est-ce qu'on craignait que les pilotes d'avions oublient comment piloter avec l'arrivée du pilote automatique ? Non, on a redéfini leur rôle vers plus de supervision et de gestion des exceptions. C'est la même chose ici. L'IA gère 90% des cas standards, ce qui libère l'humain pour se concentrer sur les 10% de cas complexes où son intelligence est irremplaçable. Au lieu de fragiliser, je pense que ça revalorise la compétence humaine.
Cette discussion sur la dépendance aux outils nous amène logiquement à la vision de l'écosystème logiciel de demain. Allons-nous dépendre d'une seule grande plateforme ou d'une multitude d'outils spécialisés ? Pour moi, l'histoire du logiciel montre une tendance très nette à la consolidation. Prenez l'exemple de Pipe, mentionné dans les documents. C'était une start-up formidable avec une IA pour automatiser la gestion des soumissions. Qu'est-il arrivé ? Autodesk l'a racheté et Pipe est aujourd'hui une simple fonctionnalité intégrée à Autodesk Construction Cloud. C'est un cycle naturel. L'innovation se fait en périphérie et puis elle est absorbée par le centre. La gravité du marché est tout simplement trop forte.
C'est une vision plausible, c'est vrai. Mais avez-vous envisagé un autre modèle ? Le comparatif des plateformes de données suggère une autre voie. Il n'est pas écrit que les entreprises doivent choisir un seul outil. Au contraire, le document montre qu'une entreprise peut très bien utiliser Databricks pour ses data scientists, Microsoft Fabric pour le reporting financier et une plateforme comme Foundry pour ses opérations critiques sur le terrain. L'avenir n'est pas forcément un monolithe, mais une constellation d'outils spécialisés qui communiquent entre eux. D'ailleurs, La preuve est là. L'outil InspectMind que j'évoquais, il s'intègre nativement avec Procore et Autodesk. Il ne cherche pas à les remplacer, il vient compléter leur offre. C'est l'idée d'un écosystème ouvert de solutions interconnectées, plutôt que la domination d'une méga-plateforme qui prétend tout faire, mais qui fait tout de manière, disons, moyenne.
Mais cet écosystème de constellation, c'est un cauchemar en termes de gestion, de sécurité, de maintenance pour n'importe quel directeur des systèmes d'information. Avoir une plateforme intégrée, c'est une seule facture, un seul interlocuteur, une garantie de cohérence des données. La promesse de la meilleure solution pour chaque tâche se heurte très vite à la réalité de la complexité organisationnelle. La simplicité d'un système unifié est un avantage concurrentiel énorme que les géants conserveront toujours.
Peut-être, mais le coût de cette simplicité, c'est le renoncement à l'excellence opérationnelle. Si vous pouvez diviser par deux vos coûts chimiques, comme l'a fait Jacobs, je pense que votre DSI trouvera bien un moyen de gérer une intégration logicielle de plus. La pression pour la performance et la rentabilité poussera les entreprises à chercher les meilleurs outils, pas seulement les plus pratiques à gérer. L'ère des solutions taille unique est peut-être bien en train de se terminer.
Pour résumer ma position, je reste persuadé que la dynamique du marché, avec cette tendance naturelle à la consolidation, favorise les plateformes intégrées. Leur échelle, la richesse de leur écosystème et leur capacité à absorber l'innovation en font le vecteur principal de la numérisation du secteur. L'IA, en fait, ne vient pas perturber ce modèle. Elle vient le renforcer, le rendre encore plus puissant et incontournable.
De mon côté, je maintiens que le changement le plus significatif ne viendra pas de l'optimisation des processus de gestion, mais bien de la transformation des opérations sur le terrain. Les plateformes qui ciblent des résultats mesurables et qui augmentent les capacités des travailleurs de première ligne, ce sont elles qui créeront le plus de valeur. Les exemples de réduction de coûts, d'amélioration de la conformité, sont la preuve qu'il ne s'agit pas seulement d'améliorer des rapports, mais bien de redéfinir la place de la donnée dans l'action quotidienne de l'entreprise.
Nos perspectives divergent clairement sur la stratégie qui dominera à l'avenir. Mais je pense qu'on est d'accord sur un point essentiel. L'IA et l'analyse de données sont en train de rebattre complètement les cartes dans l'industrie de la construction, d'une manière qu'on commence à peine à entrevoir.
Absolument. La vraie question est de savoir si cette transformation se fera par une évolution progressive des géants établis ou par une disruption menée par des acteurs plus agiles et spécialisés. Les documents que nous avons étudiés montrent que pour l'instant, les deux modèles coexistent. Et cette tension entre ces deux visions de l'avenir est ce qui rend cette période si fascinante à observer. Elle mérite sans aucun doute de continuer à être explorée.